L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local sur l'autre radio. Et je suis en compagnie de Claire. Bonjour Claire.
Eh oui, salut Marie, salut tout le monde. Il fait très beau aujourd'hui. Comme quoi, en Mayenne, c'est possible. Je suis vraiment contente.
Oui, surtout presque des températures d'été cet après-midi. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et le petit tacle à la Mayenne, je pense que tu peux le garder. Mais bon, non. Bref, la météo, je ne vais pas m'éterniser là-dessus puisque ce n'est pas ma spécialité non plus. En tout cas, dans cette émission, on va parler, alors pas que de météo, hein, bien sûr, mais aussi d'un chantier d'avenir, un dispositif créé par Laval Agglomération depuis 2014. Et bien là, le beau temps va leur être utile à eux aussi puisqu'ils sont en train de terminer un chantier, un mur de pierre en fait à Loiron-Ruyer. Et donc c'est un dispositif qui permet à certaines personnes éloignées de l'emploi d'y revenir, on en parlera tout à l'heure. On va parler aussi de la semaine culturelle proposée dans les lycées à Château-Gontier par des étudiants d'une licence professionnelle. Nous expliquerons un peu le programme et pourquoi c'est d'autant plus important cette année. Et puis en fin d'émission, vous pourrez retrouver, comme chaque lundi, le coup de cœur littérature de Christophe.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Le bateau de Maxime Sorel quitte la Mayenne.
L'opération de levage du voilier a lieu ce midi. Alors, ce midi ou jusqu'à 14h, hein, pour être précis. Adieu donc au bateau arrivé 10e du Vendée Globe, qui était exposé à Laval, quai Pinson, depuis 2 semaines. Près de 2000 Mayennais ont pu le visiter. Le convoi exceptionnel repart jusqu'à Concarneau, dans le Finistère, là où on l'a préparé. Il subira quelques réparations avant sa vente, assure Maxime Sorel.
Une vraie loi climat, pas la farce de loi.
C'est l'un des panneaux brandis hier lors de la manifestation pour la loi climat à Château-Gontier. Elle a réuni près d'une centaine de personnes à l'appel du collectif Sud Mayenne en transition. À Laval, ils étaient 150 manifestants pour que le travail des 150 de la Convention citoyenne ne soit pas réduit à néant au profit d'intérêts particuliers d'un petit nombre, selon leurs mots. La loi climat qui est en discussion à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui.
Nouveauté dans le dépistage de la Covid-19 en Mayenne.
Pour ces 2 prochaines semaines, le centre de dépistage mobile fera escale à Ernée les mardis toute la journée à la salle de convivialité de l'esplanade Gérard Houdet et les samedis de 9h30 à 13h30 à Loiron-Ruyer dans le hall attenant à la salle des fêtes et de 16h à 19h à Saint-Pierre-la-Cour à la salle polyvalente. Les autres dépistages sont maintenus, notamment à Château-Gontier le jeudi à la halle du Haut-Anjou et du jeudi au samedi à Laval à la salle du Palindrome.
Le festival vin, fromage et musique annulé.
Il n'aura pas lieu le 5 juin prochain comme prévu. Cette édition devait exceptionnellement se dérouler à Cran et non à Livry-la-Touche. Si la jauge de 5000 personnes ne nous impactait pas, expliquent les organisateurs, l'absence de restauration, de possibilité d'installer des buvettes et de devoir organiser des concerts à ainsi n'augurait rien de bon selon eux. Ils travaillent déjà sur un projet de tremplin musical pour la fin 2021.
Un tableau de René Goscinny trouvé en Mayenne.
Et oui, par un habitant de Villaines-la-Juhel, Marcel, 95 ans. Il a découvert ou peut-être plus probablement redécouvert par hasard qu'il avait chez lui un tableau de René Goscinny. Le dessinateur de BD lui avait fait un petit croquis en 1946 car les deux hommes ont fait leur service militaire ensemble à Aubagne dans le sud de la France. Et Marcel l'assure, ce sont ses enfants qui en hériteront.
Et le foot, le derby de National remporté par Laval.
Les Tangos se sont imposés samedi soir face au Mans en l'emportant 2-1. Une victoire, une première en 2021 à domicile qui permet au stade lavallois d'espérer encore se hisser à la 3e place du classement.
Et Marie, près d'une centaine de personnes ont participé au chantier d'avenir de Laval Agglomération.
Oui, près d'une centaine depuis la création du dispositif en 2014. Actuellement, ils sont 14 à construire un mur de pierre pour le crématorium du cimetière de Loiron-Ruyer. Ces personnes éloignées de l'emploi travaillent 20 heures par semaine pendant un an et peuvent bénéficier en parallèle d'un accompagnement professionnel avec Pôle emploi ou la mission locale et d'un accompagnement social avec le CCAS. Anthony Daniel a intégré, lui, le chantier d'avenir en octobre dernier et voici depuis ce qu'il a appris.
De la maçonnerie, faire de la chaux, poser des pierres, calculer tout ce qu'il y a à faire. Une bonne équipe et une bonne ambiance. Moi j'étais plus dans le travail d'usine, dans l'industrie. Et puis je voulais changer un petit peu de métier au niveau de l'extérieur. Oui, on a beaucoup de rendez-vous avec la personne qui nous suit. Savoir dans quel domaine on peut faire chacun son orientation. Après on a beaucoup des aides par rapport à logement, un peu de tout en fait.
Et même si Anthony aimerait, lui, se réorienter dans le bâtiment, ce n'est pas le cas de tous, comme le confirme Philippe Rénière, encadrant technique à la Val Aglo, qui s'occupe du chantier.
Alors, les profils sont divers, hein. Il y a des hommes, il y a des femmes. Le plus jeune a 18, le plus vieux a 58. Sauf qu'ils ont tous une expérience relativement faible professionnelle. Pour ceux qui ont 58 ans, c'est juste tenter de faire une fin de vie la plus confortable possible. Contrairement aux jeunes qui, là, va leur donner un nouvel espoir de partir vers une nouvelle filière, qu'elle soit bâtiment ou industrie. Et surtout, leur donner un espoir de retrouver une vie tout à fait normale, puisqu'ils ont tous des vies plus ou moins chaotiques. Ils ont tous des craintes. Parce qu'ils pensent être attendus sur le volet technique, alors ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est qu'ils puissent répondre à des critères simples d'assiduité, de ponctualité, déjà des critères de base, pour qu'un jour ils soient employables. S'il y a de la technique, tant mieux, mais il faut absolument que ces critères-là soient obtenus. C'est vraiment un passeport.
Les accompagnateurs incitent souvent les travailleurs à passer leur permis, s'ils ne l'ont pas, pour qu'ils deviennent mobiles. Sur les 88 participants au dispositif, plus de la moitié a retrouvé un emploi à la sortie, ce qui incite Gwenaël Poisson, le vice-président de Laval Agglomération en charge de l'insertion et de l'emploi, à développer ses chantiers d'avenir.
On souhaite doubler. Je pense que ça répond aussi à une demande, notamment avec la crise sanitaire que nous vivons, où bien souvent, même si sur le territoire mayennais, on n'a pas un taux de chômage si dramatique que ça malgré la crise, ce sont souvent les gens qui ont le moins de bagages, le moins de compétences, qui sont les premières victimes de cette crise et de perte d'emploi. Ce sont les emplois les moins qualifiés. Donc on estime que c'est justement positif de doubler ces effectifs pour permettre à un plus grand nombre de se relancer, de rapprendre des gestes techniques, de se remettre aussi dans l'habitude de venir travailler, parce qu'on a aussi dans ces chantiers d'avenir, des gens qui sont éloignés, très éloignés de l'emploi, de par leur manque de formation, leur manque d'expérience professionnelle, mais quelquefois aussi par les aléas de la vie qui ont fait qu'ils n'ont plus un rythme de vie quotidienne habituel et le rapport au travail est très différent de tout un chacun.
25 personnes donc, au lieu d'une douzaine, seront recrutées en mai prochain pour des missions toujours en lien avec les services techniques des communes, comme la remise en état de chemins pédestres, l'entretien d'espaces verts ou encore des travaux de peinture. On en a parlé en tout début d'émission, des étudiants de la licence conception et mise en œuvre de projets culturels préparent toute cette semaine un projet d'intervention d'artistes dans les lycées. On écoute ça dans quelques minutes, juste après Beck avec Sex Laws.
Isolated doctors, mom. Carnival.
Vous écoutiez Beck sur l'autre radio dans l'agité du local. Et tout de suite, on vous propose de plonger dans la culture au lycée. Enfin, on vous propose, c'est plutôt ce que vous proposent les étudiants en licence conception et mise en œuvre de projets culturels au lycée Victor Hugo et Pierre et Marie Curie à Château-Gontier. Toute cette semaine, ils ont confectionné, c'est plus joli et c'est plus correct, confectionné tout un programme autour de l'eau avec l'intervention de différents artistes. L'occasion de dévoiler le programme donc et les coulisses de sa confection avec trois étudiantes de cette licence professionnelle.
Alors moi c'est Clara, j'ai 26 ans.
Moi c'est Julie et j'ai 24 ans, bientôt 25.
Et moi c'est Mathilde, j'ai 22 ans et donc on fait partie de la licence professionnelle conception et aménagement de projets culturels à l'université du Maine au Mans.
Ici en tout cas depuis le mois de janvier, ici au lycée Victor Hugo à Château-Gontier. Et donc justement là vous nous présentez la semaine culturelle autour d'un thème, autour de l'eau. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu cet événement ?
Cette semaine culturelle, donc c'est une semaine qu'on organise sur deux lycées à Château-Gontier, le lycée Victor Hugo et Pierre et Marie Curie. Les années précédentes, il y avait plus de lycées, mais cette année, à cause de la crise sanitaire, évidemment, on a réduit les établissements. Et donc, c'est une semaine qui a pour but de promouvoir la culture au sein des établissements scolaires, tout simplement. Et nous, on trouve que c'était une bonne idée, surtout cette année, de faire venir à la culture quand c'est pas nous qui venons à la culture.
Donc l'idée, c'est d'être... Il y aura forcément des actions qui seront proposées ici, au lycée Victor Hugo, mais aussi au lycée Pierre et Marie Curie.
Tout à fait. On a programmé deux semaines, en fait, sur les deux établissements. Donc on a déjà distribué et communiqué sur les réseaux sociaux les programmes. Donc il y aura entre autres des expositions permanentes, des graffeurs, des réflexions autour de l'art, des projections, un conteur, de la danse, voilà par exemple, pour vous donner une petite idée de ce qui va s'y passer.
Qu'est-ce qui a guidé ces choix justement, puisqu'on voit ces différents arts et différents artistes, j'imagine. Comment vous les avez choisis tout simplement ?
À la base, c'est qu'on aimerait, on aimait le fait que ce soit pluridisciplinaire et qu'on voit beaucoup de choses, que ce soit justement la danse, les arts visuels ou les arts sonores. On trouvait ça intéressant justement de montrer tout ce qui pouvait se passer dans le milieu de la culture et donc... Voilà, on en est arrivé à imaginer plusieurs possibilités autour de l'art et de l'eau.
Donc un thème justement autour de l'eau, pourquoi avoir choisi ce thème-là ? En tout cas, pourquoi ce thème-là guide donc toute cette semaine, toutes les actions de cette semaine-là ?
Alors en fait, donc ce thème, il nous est imposé par le ministère de l'Éducation nationale et donc c'est un thème qui s'inscrit beaucoup dans la ville puisque donc à la Mayenne, en Mayenne, il y a la Mayenne qui passe et voilà, donc l'eau, c'est un thème qui a été choisi, enfin imposé, mais qui reste quand même un thème stratégique. Et je pense que les lycéens, en plus, ont beaucoup de choses à découvrir autour de ce thème. Puis c'est voilà, vachement en corrélation avec l'écologie, enfin voilà, tout ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Donc un thème imposé, mais qui au final est assez sympathique à travailler. Et on a pu faire plein de choses, proposer plein de choses, parce que de nous-mêmes, on n'avait pas forcément de connaissances particulières sur ce thème au niveau de la culture. Et en regardant au final sur Internet, on a trouvé énormément de choses, ce qui nous a permis de proposer une programmation, comme disait Julie, pluridisciplinaire.
Et donc justement, ce thème de l'eau, est-ce qu'on peut... Alors... pas forcément dire à chaque fois comment il a été décliné, mais donner quelques exemples pour qu'on ait un peu une idée.
Alors du coup, nous, tout ce que ça nous a donné, ça nous a fait penser tout de suite aux sirènes, aux monstres marins, aux légendes, le côté aussi mythologie nordique. Donc en fait, plein de choses différentes, mais avec le thème commun de l'eau, le côté vraiment imaginaire. En fait, on s'est axé sur le côté voilà, imaginaire, l'homme, donc l'eau vue par l'homme, imagination et fascination. Et notre slogan, donc, c'est « plonger dans l'imaginaire ». Donc un côté voilà, féerique, rêveur, qui promet de belles choses et de belles sensations et de belles émotions aux lycéens et à nous-mêmes aussi, du coup, organisateurs de la semaine culturelle.
Comment est-ce que vous avez choisi justement les artistes ? Est-ce que ce sont tous des artistes mayennais, justement, qu'on pourra retrouver ?
En majeure partie, mais pas tous. Par exemple, le danseur vient de Vendée, par exemple. On les a choisis Pour ce qu'ils proposaient et pour leur façon qu'ils avaient de s'adapter à notre thème de l'eau. Par exemple, le conteur a fait une sélection donc, de mythologies liées au thème de l'eau. Et on sait qu'il y en a beaucoup dans les mythologies, notamment celtiques, nordiques, puis même méditerranéennes, en fin de compte. Après, il y a beaucoup de choses que, par exemple, les projections et les capsules sonores. C'est nous qui avons donc fait la sélection des textes et des films que nous allons projeter. Donc, essayer vraiment de rendre ce thème attrayant, puis amusant et, comme disait Clara, porteur d'émotions. Voilà.
Et c'est aussi de faire vivre, j'ai l'impression, le lycée autrement, lors des temps de pause, dans des endroits auxquels ils ne pensaient pas forcément. On disait en micro tout à l'heure la diffusion de capsules sonores aux toilettes. C'est assez original, en tout cas.
Oui, c'est une idée assez originale. C'est vrai, mais en fait, on l'a adopté assez vite. C'est vrai que ça sort du quotidien et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. On n'a quand même plus accès à grand chose et donc on trouvait ça intéressant de vraiment venir partager des choses ensemble dans un moment incongru, au détour d'une pause ou voilà quoi, en gros.
Est-ce que justement les artistes que vous avez contactés étaient peut-être d'autant plus contents d'avoir une proposition, parce qu'on le sait en ce moment c'est compliqué pour tout ce qui est spectacle au sens large?
C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de mal à les faire venir. Après c'est vrai que on essaie de faire avec leur disponibilité, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en l'occurrence, une fois qu'on leur a bien expliqué le projet, etc., il y a finalement eu assez peu de désistements. Ça a été un travail quand même de longue haleine, parce que c'est pas évident pour nous. On apprend aussi à faire ça. Mais on s'en est sortis en 3 mois. On a monté une semaine culturelle et on est assez fiers de ça.
Oui, c'est exactement ce que j'allais vous demander, donc plutôt fier en tout cas de cette programmation, puisque justement c'est l'un des grands projets de votre licence, donc une licence conception et mise en œuvre de projets culturels. Dans un contexte comme ça, on se dit, vous tombez la mauvaise année en fait, parce que là, c'est forcément compliqué de mettre des projets en forme, et donc là, peut-être d'autant plus méritant d'avoir réussi à finir cette semaine culturelle.
C'est sûr, on en est très très fiers. Vu le contexte, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de peur du fait que ce soit annulé, que les lycées ferment, que les artistes ne puissent pas venir parce que confinement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de doutes et donc c'était très compliqué à mener, en plus de tout le reste. Le fait que ce soit dans un lycée, c'est aussi des contraintes particulières, mais ça nous a fait beaucoup de plaisir de pouvoir mener un projet culturel. C'est vrai qu'on est vraiment en manque de culture en ce moment, donc ça nous a fait vraiment plaisir. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on remercie beaucoup que ce soit les artistes locaux, mais les commerçants locaux aussi. C'est quand même grâce à eux qu'on a fait cette semaine culturelle. Enfin, c'était très intéressant. On a pu mener ça jusqu'au bout grâce à eux aussi. La tombola aussi qu'on a menée, du coup, est aussi en partie grâce à eux, parce qu'on a des dons des commerçants locaux de Château-Gontier.
Donc ils vous ont aidé en donnant des lots pour cette tombola. Et c'est, en tout cas pour moi de l'extérieur, agréablement surprenant, puisqu'en fait on pourrait se dire, eux ils ne voient pas l'intérêt, puisque c'est vraiment interne au lycée en fait cet événement-là. Et pourtant ils participent.
En fait oui, ils sont complètement... tout ce qu'ils veulent c'est nous aider en fait, nous soutenir, nous permettre, nous étudiants... d'atteindre notre objectif, d'atteindre l'objectif de la semaine culturelle, qui est qu'au final, ce soit juste une réussite et que les lycéens soient contents, que nous, on soit contents. Et en fait, ils sont désintéressés. Tout ce qui, le but, c'est vraiment de nous permettre, de nous laisser notre chance, de montrer qu'on est capable d'organiser une semaine culturelle et il faut s'entraider.
Et puis, ce qu'on a pu constater dans cette licence professionnelle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à donner pour la culture que ce qu'on nous laisse penser, en fait. Et qu'il faut croire que c'est peut-être pas aussi inessentiel que ce qu'on veut bien nous dire. Donc, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Et nous, c'est ce qu'on prône, évidemment, on est dans ce marché, si je puis dire là. Voilà, c'est notre cheval de bataille et on est très content de pouvoir proposer un événement pareil en Mayenne.
Et cet événement-là, justement, il fait partie, donc on l'a dit, du programme, en tout cas, de votre licence professionnelle. Justement, qu'est-ce que ça va vous apporter pour la suite et qu'est-ce que ça vous apporte déjà pour la suite ?
Bah moi, personnellement, beaucoup. C'est vrai qu'on a des parcours extrêmement différents, tous dans la classe. On est une petite vingtaine d'élèves, voilà, qui ont été choisis sur dossier. On a des profils très différents. Moi, je viens du monde de l'art, Julie également. Clara vient du monde plutôt de la gestion, du management, de l'événementiel. Voilà, on a plein de profils très différents, des comédiens, des assistants de gestion, des BTS, etc. Et je pense que ça nous a apporté beaucoup, le savoir-faire d'équipe déjà, le fait de reprendre une association, de savoir comment faire un contrat, comment contacter, comment recontacter, comment défrayer les artistes, penser au logement. C'est vrai que, enfin, pour ma part, moi, j'ai découvert énormément de choses dont je ne soupçonnais même pas certainement l'existence. Comment communiquer, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui marche selon les âges, s'intéresser au public. C'est, pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une formation très complète et je pense que c'est une vraie expérience à faire valoir sur un curriculum vitae.
Oui, pour revenir sur l'association qu'on a reprise, en fait, c'est une association qui a été créée lorsque la formation a été mise en place. Et donc, l'association Asso Culture, chaque année, est reprise par la promotion en cours. Donc voilà, on se passe le bébé et du coup, donc on doit... voilà, vous pouvez trouver sur Instagram l'Instagram de Asso Culture. A2SAUT et culture comme culture. Donc on doit changer de bureau, resélectionner les membres du bureau, donc faire comme si en fait on créait notre propre association. Donc c'est hyper intéressant, même toutes les démarches administratives auprès de la préfecture. C'est comme si on était déjà sur le terrain, mais en formation. Donc en fait on est vraiment formé à de futurs professionnels de la culture. Et le fait que qu'on vienne d'horizons différents, qu'on ait des âges différents aussi, puisque la plus jeune a 20 ans et la plus vieille a 37 ans. Donc au final, ça crée une belle mixité pour une belle cohésion d'équipe. Et ça, c'est hyper important parce qu'au final, tous les jours de notre vie, on se retrouve face à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont différents de nous. Mais on doit être capable de s'adapter tous les jours, c'est hyper important. Voilà.
Donc c'est vrai que ce projet-là est quand même une grosse partie. J'imagine qu'il y avait aussi donc l'angoisse de ne pas pouvoir le mener à terme. Est-ce qu'il y a d'autres projets avec d'autres structures du territoire justement que vous menez dans le cadre de cette licence ?
Alors oui, bien évidemment, on a des projets tutorés, comme ils se nomment, où on est en lien avec donc des structures locales comme le Théâtre de Laval, le 6x4 aussi à Laval, la SMAC. Il y a également... Atmosphère 53 en Mayenne et le Carré à Château-Gontier. Et avec eux, on mène différents projets comme monter un festival de cinéma ou de musique, faire de la communication avec le Carré et la médiation. Et nous avons également, avec le théâtre, comment créer un jeu qui pourrait leur servir en tant que médiateur culturel. Qui est autour des marionnettes, vu que le théâtre va être labellisé centre d'art et de marionnettes. Voilà. Et donc c'est très intéressant. Et nos intervenants aussi qui nous font nos cours sont aussi soit des artistes locaux, soit des personnes qui travaillent dans la culture, comme des administrateurs, etc. Il y a beaucoup de personnes ça nous aide beaucoup et comme ils sont dans le milieu professionnel, c'est vraiment un plus pour nous.
Et donc là, vous avez commencé votre licence en septembre. Est-ce que vous avez déjà une idée de la suite pour vous ? On sait que c'est un peu compliqué en ce moment. Et comment est-ce que vous voyez les choses ?
Ben, on voit les choses dans l'attente des réouvertures des lieux culturels, évidemment. Après, je pense qu'on a affiné nos choix professionnels tout au cours de l'année. C'est vrai qu'on a maintenant plus ou moins tous une idée de vers quelle branche on veut se diriger. C'est-à-dire, ça peut être chargé de la programmation, chargé de la communication, chargé des médiations, voilà, toutes ces choses en Sion. Donc, c'est vrai que... c'est déjà pas un domaine forcément évident, mais il y a des débouchés possibles et on y croit tous. Et puis on va attendre patiemment que les centres culturels rouvrent et puis qu'on puisse commencer nos carrières dans ce si beau domaine qu'est la culture.
Et parmi les étudiantes, Clara cherche encore son stage de fin d'études. Donc si vous avez une piste dans un lieu culturel, n'hésitez pas à la contacter via les réseaux sociaux de l'association Assoculture. Ces réseaux sociaux, vous pourrez aussi trouver le lien pour accéder à la tombola. Vous avez jusqu'à demain soir si vous souhaitez soutenir leur projet. On revient d'ici quelques minutes et on écoute tout de suite Soul de Pléthore.
Yeah, you got me now. You got me. Now you got me there. Yeah, you got me. I got you there. You're in my soul.
C'était Soul de Pléthore dans l'agité du local. Et comme chaque lundi, une nouvelle chronique coup de cœur de Christophe, libraire chez Emily Ranjou à Château-Gontier. Prenez note hein, si vous êtes amateur de romans d'apprentissage.
Emily Ranjou à Château-Gontier vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à tous! Mon petit chouchou est de retour dans cette rentrée hivernale puisque Jean-Baptiste Andrea vient de sortir son troisième livre des Diables et des Saints, toujours dans la même maison d'édition, l'Iconoclaste. Alors Jean-Baptiste Andrea, vous l'avez peut-être déjà lu à travers son premier livre qui avait eu le prix Goncourt des lycéens, il s'appelait « Ma reine ». Et puis son deuxième livre, un peu moins à succès, c'était « 100 millions d'années et un jour ». Eh bien Jean-Baptiste Andrea continue sa trilogie, si vous voulez, de l'enfance, de l'adolescence. À chaque fois, ce sont des romans d'initiative, des romans d'apprentissage. Et là, nous allons découvrir le personnage de Joseph. Alors, au tout début du roman, on le rencontre dans un lieu public où il joue divinement du Beethoven sur un piano. Et là, on se dit, mais qui est ce type ? Ce type, il a l'air de rien. Il a plus de 60 ans. Il joue comme un dieu du Beethoven. Et là, il va commencer à nous raconter son histoire, il va nous raconter son adolescence lorsqu'il a grandi en tant qu'orphelin dans un pensionnat dans les Pyrénées. Et je peux vous dire que ce pensionnat religieux dans les Pyrénées l'a énormément marqué. Le lecteur va y passer des jours et des nuits dans cette solitude, dans cette camaraderie, dans aussi cet esprit religieux imposé par le directeur. Bref, c'est absolument magique, c'est merveilleux, c'est fort, puissant. Jean-Baptiste Andrea a le don du silence, puisque entre chaque ligne résonnent ces silences d'une teneur bouleversante. Je vous invite à découvrir ou à continuer de suivre les romans de Jean-Baptiste Andrea. Ça s'appelle « Des diables et des saints » aux éditions L'Iconoclaste.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 place Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et sur l'autre radio, dès demain à 7h30, vous pourrez découvrir une nouvelle chronique de Aime lire en joue. C'est l'heure de la rubrique Initiative et Claire. Jusqu'au 1er avril, on répond à un questionnaire de la CCE.
Et oui, la communauté de communes de Dernay, propose à ses habitants et tous se déplaçant sur le territoire de répondre à un formulaire sur la mobilité, avec tous les modes de déplacement, mais notamment le vélo. Une vingtaine de questions sont à compléter. L'objectif, ressortir les problématiques de la région pour améliorer les trajets en mobilité douce et donc développer la pratique du vélo pour les petits déplacements. Une fois les questionnaires rassemblés, un projet concret sera présenté en janvier 2022. L'enquête est disponible sur leur site internet www.cc-lernay.fr ou à l'accueil de la CCE dans la zone industrielle Dernay.
Et Claire, on aide cette fois-ci une association en mangeant.
L'association Baco School à la Baconnière, l'association d'animation scolaire, avait prévu une soirée dansante et déguisée dans une école qui ne pourra pas avoir lieu. Mais pour les soutenir, vous pouvez réserver votre repas à emporter. Au menu, poulet façon couscous par la vieille auberge de à Bourgneuf-la-Forêt et une pâtisserie de Jocelyn. Le repas adulte est à 12 euros et le repas enfant à 7. C'est à réserver jusqu'au samedi 3 avril au 06 13 24 46 07. Et c'est à récupérer le samedi suivant, le 10 avril, sous le préau de la salle des fêtes.
Très bien, merci beaucoup Claire. C'est vrai qu'à l'approche du déjeuner pour nous, en tout cas, ça m'a donné faim, ou peut-être du dîner. Hein. Pour tout connaître de l'actualité de l'autre radio, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et si vous avez des initiatives à nous partager, on le rappelle, vous pouvez nous laisser un message vocal au 09 70 40 54 40. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi 29 mars. Merci Claire.
Merci Marie, merci tout le monde et on se retrouve demain.
On se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude, mais d'ici là en tout cas, restez sur l'autre radio à l'écoute. À 19h, il y aura Solénoïd, suivi à 20h de la discothèque de notre programmateur, puis à 21h d'Eldorado, et puis pour ceux qui se couchent un petit peu plus tard, à 23h30, La Commune de 1871, racontée par Louise Michel dans ses mémoires écrites en 1898, des petites pastilles que vous pourrez retrouver pendant plusieurs semaines. Et nous, on se retrouve donc demain à 12h15, je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.